d'entre nous n'a jamais espéré devenir célèbre, d'être acclamé par une foule entière? Aujourd'hui, peut-être qu'avec les réseaux sociaux, ça correspondrait à être suivi par de nombreux followers ou des suiveurs en français. Il a même fallu que j'aille chercher sur Internet la correspondance exacte sur les réseaux sociaux, ou d'avoir des centaines d'amis sur Facebook, mais Facebook, c'est plutôt de ma génération. Il paraît que c'est plus la génération des jeunes qui font Facebook. Ça va tellement vite. En tout cas, on peut se poser la question, qui acclamons-nous aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui sont remarquées, mises à l'honneur, applaudies? Quels exemples pouvons-nous donner? Peut-être que les jeunes, vous allez penser au spectacle. Ça vous arrive d'aller au spectacle. Moi aussi, ça m'arrive d'aller au spectacle. Alors on applaudit l'artiste, ça peut être un musicien, ça peut être au théâtre, et on se réjouit de passer des bons moments. Et puis selon là où on va aller, on ne va pas avoir la même expression, on va applaudir juste avec nos mains tranquillement et sagement, ou bien quand on est dans un concert un peu plus déchaîné, on peut crier, on peut chanter. Et j'attire votre attention sur le fait que le mot en français « idole » s'applique aussi pour des gens qu'on aime beaucoup. « Ah oui, c'est mon idole !» Et alors que tout l'Ancien Testament se bat parce que Dieu a une concurrence, ce sont les idoles. Donc, que ce soit les champions sportifs, musicaux ou autres, eh bien, voilà, on est dans cette ambivalence. Jusqu'où est-ce qu'on va admirer quelqu'un ? Et puis aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser à ce que nous allons faire tout à l'heure ou ce que nous avons déjà fait quand nous avons 18 ans. Tous les jeunes de 18 ans, j'espère, vont pouvoir se rendre aux urnes. Donc en effet, on a des hommes et des femmes politiques qui en sont en concurrence et on va élire, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais... C'est le processus d'élection pour la France et ces gens-là se sont fait acclamer plus d'une fois dans leur meeting de campagne. Voici un homme qui arrive. Jésus entre à Jérusalem. C'est la grande ville du pays, la ville du roi David. Dans cette ville a été construit un temple immense, démesuré. Et c'est dans ce temple où l'on vient adorer Dieu et faire des sacrifices. Une ville qui a vu toute l'histoire du peuple d'Israël et de son peuple, toute l'histoire entre Dieu et le peuple d'Israël se dérouler avec beaucoup d'événements marquants. Et Jésus arrive, et vous avez remarqué sur quoi il arrive ? Sur un petit âne. Franchement, je me suis dit, si vraiment il avait voulu susciter l'acclamation, il aurait peut-être pu choisir un cheval, un peu plus haut quand même que tout le monde. Mais non. Je ne sais pas s'il se réjouit beaucoup, lui, de cette acclamation. Parce qu'il sait que la venue dans Jérusalem va déclencher des luttes de pouvoir et que les chefs religieux ne vont pas voir d'un bon œil qu'ils viennent à Jérusalem. Il ne respectait pas déjà tellement le sabbat. En guérissant des gens, il s'est fait reprendre plusieurs fois et il sait que cela ne peut pas bien se terminer. Cette joie à la fête des Rameaux, c'est une joie amère, parce que nous savons la suite de l'histoire. Jésus est reconnu parce qu'il a fait des miracles, et l'évangile de Jean insiste sur le fait que les gens sont là parce qu'il a ressuscité Lazare. Vous connaissez peut-être cette histoire qui est juste avant les Rameaux. Évidemment, c'est un événement unique, une résurrection. Alors la foule est heureuse, elle manifeste sa joie. La joie se communique. La joie met les gens en communion et cette joie ne peut pas être empêchée par les grands prêtres. Ils aimeraient bien pourtant, ils cherchent un moment pour attraper Jésus et le tuer, et pourquoi pas tuer Lazare aussi, mais Jésus laisse faire cette joie et cette acclamation. Et même il se glisse dans l'événement annoncé par les prophètes. Vous avez entendu dans Zacharie, c'est annoncé, le roi arrive. Non seulement sur un âne, mais sur un petit âne, sur un enfant âne, un roi juste et humble. Et cette étape était nécessaire pour que les disciples reconnaissent après coup que Jésus était bien le Messie attendu et annoncé par les prophètes. Mais normalement, dans la compréhension de l'époque, ce Messie ne devait pas mourir. C'était impossible. Quand on acclame quelqu'un, on espère qu'il nous fera vibrer longtemps. On espérait que Jésus allait encore guérir beaucoup de monde et même qu'il allait délivrer Israël de l'occupation romaine. Mais ce n'est pas ce Messie-là que Dieu envoie. Jésus est un homme, il va être arrêté par les chefs religieux, jugé et livré aux Romains pour qu'il soit tué et crucifié. On pourrait quand même se poser la question, si Jésus a ressuscité Lazare, il a brisé la limite ultime de la mort. On aurait pu penser que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. C'est vrai, Jésus a révélé cette puissance de vie qui vient de Dieu, cette puissance dont la mesure extrême va au-delà de la mort, mais lui-même est-il à l'abri de la mort? Est-il protégé par sa relation à Dieu? Par ce qu'il est capable de faire? Par cette puissance de vie? Jésus n'est pas protégé. Il ne va pas éviter de mourir. Alors on peut se demander pourquoi. C'est vrai que quand on regarde une croix avec Jésus dessus, on ne peut que se poser la question. Si vous montrez une image de crucifixion à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, et en ce moment dans notre société ça arrive de plus en plus, il va se dire, mais c'est quoi cet homme? C'est horrible. La croix vient, et c'était indispensable qu'elle soit là, pour nous révéler ce dont les humains sont capables. Face à Jésus, les chefs religieux sont au pied du mur. Ils sont face à un homme inoffensif, dont la seule arme est la parole. Une parole de vie, une parole qui témoigne d'un Dieu aimant, un Dieu Père. Ils ont considéré comme dangereux l'homme le plus humain de la terre, le plus proche de Dieu, celui qui a révélé sa lumière et son amour. Oui, la croix vient dévoiler à quel point les hommes peuvent se tromper, les humains peuvent se tromper. La croix, c'est le dévoilement de l'aveuglement humain. On a été capable de tuer le Fils de Dieu. Les chefs religieux ont agi en fonction de leur peur, peur pour leur pouvoir, au nom d'une idéologie religieuse. Ils ont considéré que Jésus n'était pas un envoyé de Dieu, alors ils ont voulu le supprimer. La croix montre à quel point la violence est une composante de notre vie, qu'elle soit à l'intérieur de nous. Elle peut être suscitée en effet par nos peurs, ou bien à l'extérieur, que nous la subissions ou que nous la fassions subir à d'autres. Et la violence, nous devons tous composer avec. Nous la fuyons, nous la détestons, mais elle nous rattrape souvent. Et quand on a beaucoup de pouvoir, eh bien elle se déploie à grande échelle. On en a un exemple malheureusement avec l'agression de l'Ukraine par la Russie. C'est évidemment un exemple qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui parce que c'est très proche de notre Europe, mais il y a bien d'autres pays où la violence se déchaîne, où il y a des massacres, où il y a des conflits. Le vote présidentiel que nous allons accomplir tout à l'heure, ou que nous avons déjà accompli, nous rappelle que la démocratie est un des régimes politiques qui limite beaucoup la violence. Et il est important que nous préservions notre démocratie. Mais en suivant Jésus-Christ, nous savons aussi qu'il ne faut pas tout attendre d'un pouvoir humain, d'un système humain. Et il ne faut pas attendre en particulier une transformation profonde de notre vie. On ne peut pas toujours dire c'est la faute des autres. La croix nous dit non, il y a quelque chose à creuser en nous, chacun. Ce n'est pas une organisation humaine qui aura le dernier mot sur notre existence. Et quand on y pense, il faut se souvenir que Jésus n'était pas en démocratie du tout, mais il vivait sous un régime d'occupation. Et c'est sous ce régime d'occupation qu'il est venu bouleverser tous les repères humains sur la vie et sur la mort. parce que cela ne se termine pas avec la mort. La mort n'a pas le dernier mot. Alors à Jésus qui a ressuscité Lazare, eh bien Dieu fait le cadeau de le ressusciter, non pas pour juste repousser l'échéance de la mort, comme pour Lazare, non. Cette résurrection qui est mystérieuse, qui est inconnue de nous, mais qui est une promesse, c'est le don d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle, d'une vie promise à tous. Une résurrection qui fait de Jésus un frère, pour nous aujourd'hui, une présence vivante à nos côtés. La foule acclame ce roi sans se douter que ce royaume est bien différent de celui que les grands de ce monde proposent. Les humains récoltent des succès éphémères et superficiels. On sait combien un champion au sommet de son art peut en descendre rapidement. Peut-être que dans notre vie, nous avons besoin de la reconnaissance des autres, et c'est important de le reconnaître, qu'on a besoin de cette reconnaissance. Mais c'est important aussi de se dire que ce n'est pas la seule assurance, la seule source d'assurance que nous avons. Parce qu'il y a bien des moments où nous sommes seuls. Et quand nous sommes seuls, sur quoi nous pouvons nous appuyer? Jésus doit affronter la croix, il ne s'appuie pas sur la reconnaissance humaine, mais il vit de la relation qu'il a avec Dieu, avec son Père. Et il vit d'une confiance qui le dépasse dans l'intimité de son cœur. Jésus nous montre l'importance de notre vie spirituelle et intérieure. C'est ce lieu intime et personnel, ce lieu de notre conscience où Dieu même, où Jésus même peut venir nous visiter. Ce lieu unique où nous pouvons nous fonder sur l'amour de Dieu. Ce fondement intérieur est un enracinement qui permet de tenir face aux malheurs, face aux difficultés de la vie de tous les jours. Il nous permet de ne pas nous laisser influencer dans des directions dangereuses. Et j'ai pensé à cette image d'une plante, une herbe même, plantée au sol. Quand il y a du vent, et on a eu beaucoup de vent il y a 2 jours, et ben elle se balade d'un endroit à un autre, mais elle ne se déracine pas. En fait, l'herbe, elle a des racines très très longues, très profondes. Et plus elle a ses racines profondes, et plus elle va résister. Et je me suis dit, Jésus nous apprend aussi à lui faire confiance comme une racine. C'est peut-être lui, notre racine, qui nous enracine dans le sol de Dieu, dans ce fondement d'amour inconditionnel. Alors Jésus nous encourage à approfondir son enseignement, nous apprendre combien est-ce que son amour peut nous faire vivre, même dans les moments difficiles. Et puis il nous apprend à recevoir cette puissance de résurrection tous les jours. Parce que tous les jours, parfois nous nous sentons humiliés, nous nous sentons mal. Et cette puissance de résurrection peut ouvrir des portes là où nous ne voyons que des impasses. Oui, c'est à vivre dans toutes nos journées. Alors, c'est un jour de joie aujourd'hui. Réjouissons-nous d'avoir été ainsi rejoints par Jésus dans les limites de notre vie. Recevons cette joie. Amen.